Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et soyez de nouveau les bienvenus à Marcher vers le bien-être. Cette semaine, je vous propose un voyage dans le temps. Une randonnée au fil des siècles et des millénaires jusqu'aux origines de l'un des parcours les plus mystérieux du Québec, le mythique Sentier des Jésuites. Notre guide pour cette grande aventure est Louis Lefebvre, un raconteur né et une encyclopédie vivante de l'évolution des sentiers et du plein air au Québec. Pour réaliser cette entrevue avec Louis, nous nous sommes rendus chez lui, dans la petite municipalité de Sainte-Brigitte-du-Lac-Beauport, tout près de Québec. C'est là que nous attendait celui qui allait nous transporter très loin dans l'univers des Innus, parmi les premiers habitants de cette vaste région du nord du Québec. Un peu plus tard à l'émission, notre chroniqueur et collaborateur Michel O'Neill, alias le Serin Pèlerin, nous présente un autre parcours tout aussi fascinant et qui continue d'attirer nombre de pèlerins annuellement depuis plus de 20 ans, le chemin des sanctuaires. Je tiens d'ailleurs à remercier très sincèrement Michel de m'avoir présenté Louis Lefebvre et d'avoir tissé la toile de fond de notre entretien. Sans sa précieuse collaboration, nous n'aurions pas la chance de percer le mystère du Sentier des Jésuites. Alors sans plus tarder, rendons-nous chez Louis Lefebvre. Alors, bonjour Louis, et merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Sainte-Brigitte-de-Laval, près de Québec.
Bonjour Denis.
Pour l'entretien d'aujourd'hui, c'est d'histoire dont nous parlons, plus précisément du célèbre Sentier des Jésuites. Vous y avez consacré d'innombrables heures, tant dans les écrits que sur le terrain, et vous avez publié en 2008 un ouvrage magistral intitulé « Le Sentier des Jésuites ». Alors, avant de s'y aventurer, expliquez-nous comment la passion de la recherche historique vous a conquis, vous qui êtes d'abord récréologue de formation et de métier.
Ça a commencé quand j'étais gérant dans la vallée de la Jacques-Cartier en 1975, 6 ans avant la création du parc national de la Jacques-Cartier en 1981. Pendant cet été-là, j'ai vu apparaître un petit peu des uberlus là, qui étaient en train de partir sur le haut plateau par le sentier du ce qui allait devenir le sentier du Scotora. À la recherche d'un sentier des Jésuites qui aurait existé 300 ans auparavant. Je dis, ils sont complètement malades, ils sont tombés sur la tête, ils pourront jamais retrouver une trail dans le plein bois, tout avait été repoussé. Mais pendant ce même été, à un moment donné, il y a un collègue fonctionnaire au service des parcs là, qui m'arrive avec un manuscrit qui traînait dans un fond de tiroir depuis 4 ans. Après le décès de l'auteur, M. Thomas Edmond Giroux, qui était décédé en 1971, et qui décrivait ce sentier, puis Jean-Guy Falardeau, qui me transmet ce manuscrit-là, me dit, « Louis, il dit, ça pourrait t'intéresser, ça passe par ta vallée. » Alors là, j'ai dit, « Wow, wow, il y a quelque chose d'intéressant. » Puis là, j'ai commencé à lire le manuscrit, pour réaliser que il y avait c'est tout un parcours là qu'on va décrire bientôt là, mais que mes uberlus là, ben je suis moi-même tombé sur la tête là, puis que j'ai pris cette passion là de puis monseigneur voyons Thomas Edmond Giroux avait commencé à faire ses recherches avec la collaboration de monseigneur Victor Tremblay, qui est le fondateur de la Société historique du Saguenay. Et ces deux personnes âgées, manifestement, il n'y avait pas eu le temps d'aller sur le terrain. Alors moi, je me suis dit, je vais faire les jambes puis les yeux de ces deux vieux messieurs, dont un était déjà décédé. Puis je vais valider sur le terrain si c'est faisable, puis par où ça passait exactement, puis tout ça.
Donc, c'est de là qu'est né votre intérêt historique pour le sentier.
Tout simplement. C'était la bougie d'allumage, on peut dire.
Excellent. Alors, justement, parlez-nous de ce fameux sentier. D'abord, de quand date-t-il et quel point reliait-il?
Bien, il faut d'abord faire une mise au point. Ce sentier-là est plus que millénaire. C'est le sous-titre de mon livre, qui s'appelle « Le sentier des Jésuites », le sous-titre, c'est « Le maître sentier des Innus montagnais de Québec au lac Saint-Jean ».
Donc, ça remonte à des siècles.
À des milliers d'années.
Millénaires même.
Parce que la présence humaine dans la région de Québec s'est manifestée là, autour de 8000 ans avant aujourd'hui. Ah oui. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, le massif des Laurentides est encore couvert de la fameuse calotte glaciaire là, qui recouvrait jusqu'à 3 kilomètres d'épaisseur. Là. Mm-hmm. Mais suite à la fonte des glaciers, qui s'est amorcée il y a 18 000 ans, en tout cas, le territoire du parc des Laurentides, le massif des Laurentides au nord de Québec, a commencé à se libérer de l'emprise des glaces il y a à peu près 9000 ans. Et les humains auraient pu accéder, mais il n'y avait aucun intérêt à aller là tant que les caribous ne s'étaient pas installés.
Les caribous?
Oui, parce que après le retrait de la calotte glaciaire, ça commençait à se végétaliser sous forme de la toundra, c'est-à-dire des mousses et des lichens avec de l'herbe rase qui offre à ce moment-là un habitat et nourriture aux grands troupeaux de caribous qui, à l'origine, peuplaient les Appalaches au complet jusqu'en Gaspésie et qui ont traversé sur la rive nord, qui ont commencé à peupler les Laurentides. Et c'est seulement il y a à peu près 6000 ans que les chasseurs de caribous ont commencé à accéder sur le plateau et ils ont atteint le lac Saint-Jean. Les premières traces d'occupation humaine au lac Saint-Jean ont été découvertes à l'embouchure de la rivière Métabetchouane, à Desbiens, et datent de 5000 ans. On en a retrouvé encore récemment d'autres traces d'occupation humaine de la même période à Mastoyache. Mais comme le père Albanel, dans son voyage de découverte, partir de la vallée du Saint-Laurent pour se rendre jusqu'à la baie de James, qu'on appelait à ce moment-là la mer du Nord, il est passé le 2 septembre 1671 à l'embouchure de la rivière Métabetchouane, où il y avait déjà un village autochtone, le village de la nation des Kakouchak, qui partait de Tadoussac, pour se rendre jusqu'au lac Piekwagami, la nation des Innus Piekwagami, les Piekwagami-Yulnuach, en tout cas, c'est pas facile à prononcer. Mais, et là, il dit avoir, à cet endroit, toutes les nations entre les deux mers, la mer de l'Est et la mer du Nord, se rendaient pour faire commerce. C'est-à-dire, la mer du Nord, c'est la baie d'Hudson, puis la mer de l'Est, c'est le golfe Saint-Laurent.
Ah oui.
Alors là, il dit avoir constaté ou compté pas moins de 20 nations qui étaient rassemblées à cet endroit-là. Et c'est un peu la capitale du Piekwagami, qu'on appelle aujourd'hui le lac Saint-Jean. Et de là, 5 ans plus tard, arrivait la mission des Jésuites à l'embouchure de la rivière Métabetchouane. Et le poste de traite qui va avec.
Oui.
Et de là, après la fondation de la mission en 1676, ben, dans le registre de la mission de Métabetchouane, on voit arriver les premiers bestiaux convoyés en plein hiver par un sentier qu'on va appeler le sentier des Jésuites, mais on pense qu'il n'y a même pas un seul Jésuite qui aurait mis les pieds dans ce sentier-là. C'est un sentier autochtone où on marchait qu'on pouvait faire en canot l'été ou en hiver en raquette. Et on convoyait, il y a à peu près une douzaine de têtes de bétail, un taureau, une ou deux vaches, des génisses, des taurillons, des petits taureaux, des jeunes taureaux, qui arrivaient à peu près dans la deuxième moitié de l'hiver jusqu'au printemps. Donc, qui avait transité de Québec jusqu'au lac Saint-Jean pour constituer un cheptel reproducteur pour créer un cheptel de bestiaux.
Donc, ce n'était pas véritablement un sentier terrestre, à proprement dit.
Non, c'est plutôt des voies d'eau, comme la rivière Saint-Charles, le lac Saint-Charles, la rivière des Hurons, mais 2-3 kilomètres. Après ça, on prenait un portage. Il y avait des sections terrestres, là. On peut retrouver encore des traces de l'ancien portage qui reliait le lac Saint-Charles à la rivière Jean-Cartier. Puis de là, on montait sur les hauts plateaux des Laurentides, soit l'été par la vallée de la Jacques-Cartier, puis le fameux sentier du Scotora, pour se rendre au Scotora, qui était le nom du petit lac Jacques-Cartier, qui veut dire en langage montagnais Ascatara, qui a été transformé un peu dans la langue huronne en Scotora, qui veut dire le grand brûlé. Donc le lac brûlé.
Oui.
Et de là, on allait sur les têtes de la rivière Métabetchouan, puis on descendait le long de la Métabetchouan sur 150 kilomètres jusqu'au lac Saint-Jean. Puis d'ailleurs, il y a eu une exploration faite par Pascal Horace Dumais en mars 1862, qui décrit, lui, sa traversée par ce sentier-là, en partie, en partant de Métabetchouan. Et les 5 premiers kilomètres se font dans un sentier sauvage.
Oui.
Ce sentier-là, on peut le retrouver encore aujourd'hui. Après une vingtaine de kilomètres sur la rivière Métabetchouan, en passant par Saint-André du lac Saint-Jean, que d'autres appellent le sentier le Saint-Jean de l'Épouvante.
De l'Épouvante.
Ça, c'est une histoire de curé là, un peu cocasse là, que je pourrais vous en parler une autre fois. Puis de là, il a quitté ce qu'on appelle le sentier des Jésuites, la rivière Métabetchouan, pour suivre un itinéraire secondaire que lui-même a nommé les Grands Chemins des Chasseurs. Et il a fait la traversée du lac Saint-Jean à Québec, à Stoneham, là, en 13 jours, un temps record, accompagné de 2 guides montagnais, jusqu'à Tewksbury. Et ça n'a pas été compliqué pour lui, il était en bed and breakfast tous les soirs.
Expliquez-nous.
Les montagnais qui vivaient l'été en bordure du lac Saint-Jean ou de d'autres grands plans d'eau comme le fleuve Saint-Laurent et tout ça, ils se dispersaient pendant l'hiver dans l'arrière-pays des Laurentides pour se séparer en petits groupes de chasseurs pour subsister pendant 8 à 9 mois par année, par hiver. Donc, ils vivaient plus souvent en forêt en saison hivernale que l'été où là ils se rassemblaient le fameux lieu de commerce que je vous parle, les échanges de fourrures et ces choses-là. Alors, puis guidés par ces deux montagnais, ils ont suivi des pistes de raquettes, puis ils ont trouvé des campements déjà installés à chaque étape de leur traversée. Fait qu'ils voyageaient légers, puis ils dormaient sous la tente déjà montée depuis plusieurs mois, ce que j'appelle des bed and breakfast de cette époque-là.
Alors, pour dire, pour bien situer encore une fois, quels sont les points qu'il reliait? Il partait d'où, ce sentier des Jésuites, et il allait justement à la destination finale?
Essentiellement, c'est qu'on remonte la rivière la rivière Saint-Charles, sur toute sa longueur jusqu'au lac Saint-Charles. Après avoir traversé le lac Saint-Charles, on s'engage dans la rivière des Hurons, mais pour prendre un vieux portage décrit, entre autres, par Adams et Bébé, là, en 1829, et qui nous amène à Tewksbury, à la rivière Jacques-Cartier. Et de là, le sentier se divise en 2 sections. La section d'été, où on remonte en canot sur 40 km jusqu'au pied du Scotora, le sentier qui mène au lac Scotora, où, comme décrit par P.H. Dumais, là, Pascal Horace Dumais, en mars 1862, il y a un autre itinéraire qui, au lieu de descendre ou de monter cette côte-là assez ardue là, de 4 km de pente assez abrupte, enchaînait par une enfilade de lacs, d'étangs, de ruisseaux, et qui nous amenait du Scotora jusqu'à Tewkesbury. Il décrit dans son texte jusqu'à la chute, qu'on reconnaît aujourd'hui comme la chute à Pajot, ou le saut de Tewkesbury. Puis de là, ben, rendu sur le haut plateau, on passe par le lac Henri-Mercier, une des têtes de la rivière Jacques-Cartier nord-ouest, pour après ça traverser sur la rivière Métabetchouane qu'on descend sur 150 km, là, et où on retrouve encore des vieux sentiers multimillénaires, on parle de jusqu'à 5000 ans, des sentiers en creux, par l'usage continu de ces sentiers de portage-là, qu'on peut découvrir encore aujourd'hui en canot en faisant le circuit de la rivière Métabetchouane.
Oui. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont les Innus ont débroussaillé, pour ainsi dire.
C'est ce que moi, au début, je me disais. Comment est-ce qu'ils ont réussi à ouvrir un sentier de 300 km de long avec des haches de pierre rudimentaires? C'est la forêt qui a poussé autour du sentier et non pas le sentier qui était ouvert en pleine forêt. Je m'explique dans le sens que après le retrait des glaciers, il y a une végétation primaire là, de toundra qui s'est installée, constituée surtout de mousse et de lichen ou d'herbes rases, et qui, au fil des siècles, a fourni un habitat et nourriture pour le caribou, les grands troupeaux de caribou. Et de là, les humains ont suivi, les chasseurs de caribou, pour se lancer à la poursuite des caribous. Et de là, il s'est développé une multitude de sentiers dans la toundra, en milieu complètement ouvert, où là, les meilleurs passages se sont tracés graduellement, les sentiers se sont imprimés, comme on peut les voir encore aujourd'hui au Nunavik, là, à la baie d'Hudson ou à la baie d'Ongava, où on peut voir encore des sentiers qui, eux, ont seulement 3000 ans par rapport à ceux du massif des Laurentides, parce que qui ont à peu près 5 à 6 000 ans, disons 4 ou 5 000 ans, et tout simplement parce que la calotte glaciaire a terminé de fondre il y a seulement que 5 000 ans au centre du Québec. Fait que les sentiers autochtones sont apparus 2000 ans plus tard.
Donc, ça suivait la fonte des glaciers,
oui,
justement.
Oui, ben c'est comme ça. Moi, je dis toujours que quand on prend l'avion, c'est un peu comme, pour aller dans le nord, c'est un peu comme une machine à remonter le temps. On part de la forêt boréale et on arrive dans la toundra après avoir survolé la taïga, où là, c'est une toundra forestière, c'est-à-dire qui commence à pousser une petite épinette noire un peu à gauche, à droite, là. Ça reste encore un milieu très ouvert. Et moi, j'ai dans mon travail là, pour le service des parcs nationaux du Québec, j'ai eu le privilège de découvrir ces sentiers-là et de constater de quelle façon ces sentiers-là se sont construits en faisant le parallèle avec ceux qui s'étaient développés dans le massif des Laurentides, entre Québec et le lac Saint-Jean, et qui, avec le réchauffement climatique, la forêt boréale s'est mise à pousser, mais les sentiers ont continué d'être utilisés de génération en génération par les familles innues qui allaient passer 8-9 mois par année dans l'arrière-pays, en utilisant toujours ces sentiers qui se sont imprimés dans le sol, ce qu'on appelle des sentiers en creux, et qu'on peut encore découvrir aujourd'hui, là. Même s'ils ont commencé à être un peu plus abandonnés, là, parce qu'on a construit des chemins forestiers depuis ce temps-là, puis qu'on n'utilise pas les sentiers de portage comme on le faisait autrefois. On le fait en camionnette maintenant.
Alors justement, nous prenons une courte pause et nous revenons à cette nouvelle ère, pour ainsi dire.
Ça fait plaisir.
Thank you.
Nous sommes de retour avec Louis Lefebvre. Louis, parlez-nous un peu de justement la mission des Jésuites à cette époque.
C'est que cette mission-là a duré officiellement moins d'une trentaine d'années, de 1676 à 1703. Mais quand on lit les textes, on réalise que bon, les Jésuites ont voulu d'abord installer une ferme pour assurer autant leur subsistance qu'ils espéraient aussi que les Innus montagnais se sédentarisent, qu'ils gardent à portée de la main pour être évangélisés,
et donc
deviennent aussi des cultivateurs et qui arrêtent de courir dans le bois partout pour aller faire de la chasse et de la pêche. Alors, c'est de là qu'on a pensé, en 1681, donc 5 ans après la fondation de la mission des Jésuites, approvisionner la mission avec des bestiaux pour créer un cheptel. Et à ce moment-là, est né le sentier des Jésuites. Mais en réalité, c'était la piste, le sentier des Autochtones, la piste amérindienne qui reliait Québec au lac Saint-Jean par une enfilade de cours d'eau, puis de lacs, puis de rivières, puis de sentiers de portage. Puis on y a... dans le registre de la mission de Métabetchouan, on note l'arrivage d'une douzaine de bestiaux sur à peu près 5 hivers. Deux, trois têtes de bétail qui ont traversé à chaque hiver. Un taureau, deux, trois vaches, quelques génisses, des taurillons pour constituer un cheptel. Après ça, la ferme a continué. On a planté plein de ravioles, de tubercules, jusqu'à ce que la mission tombe en désuétude vers 1696.
Donc, parce que l'expérience n'a pas fonctionné, en fait, c'est ce qu'on dit.
Oui, puis c'est parce qu'il y a eu des grandes épidémies. Le père Crépiol, qui était un peu l'âme dirigeante de cette mission-là, est décédé en 1703 de la petite variole, mais qui avait aussi ravagé les populations innues à partir de 1696. Là. Alors, la ferme est tombée en désuétude, puis c'est à partir de ce moment-là que... il y a l'exploration de Normandins. Il y a aussi le père Laure, en 1731-1732, qui évoque l'emplacement de la mission des Jésuites abandonnée 30 ans plus tôt. Si le sentier est tombé dans l'oubli, c'est pas pour tout le monde. Parce que les Montagnais ont continué de l'utiliser jusqu'à la création du parc des Laurentides en 1895.
Parce que c'était leur sentier.
C'était leur garde-manger.
Leur garde-manger, oui.
Eux, ils connaissaient pas l'agriculture comme les Iroquois. Il y avait pas le climat se prêtait pas à l'agriculture. On vivait de chasse et de pêche. Puis l'accès au territoire, on pouvait pas vivre dans les villages rassemblés l'été là. Pendant l'hiver, parce que la concentration humaine ne pouvait pas supporter, le milieu naturel ne pouvait pas supporter, approvisionner et nourrir. Il fallait se disperser dans l'arrière-pays, dans les forêts. C'est un peu le même phénomène qu'on retrouve sur la côte nord, le long de la Manicouagan, de la Betsiamite, de la rivière Moisy, de tous les gens quittaient les rives du Saint-Laurent pour... se disperser dans l'arrière-pays, le long des rivières, puis le sentier des Jésuites, ou le maître sentier des Innus montagnais, en était un exemple remarquable.
Donc, il n'est pas vraiment tombé en désuétude.
Non, parce que avec la création du Parc national des Laurentides en 1895, il y a les garde-feu qui, à partir de 1928, ont réutilisé ces sentiers-là, puis en ont maintenu l'usage pour leurs itinéraires de patrouille qui les amenaient jusque Autour de garde-feu qui avaient été installés sur les montagnes les plus élevées du territoire. Et comme je leur ai demandé à un moment donné, du coup, donc, comment vous avez fait pour trouver par où passer pour tel sentier? Ils disent, c'était pas compliqué, les sentiers étaient déjà tous là. Puis les seuls qui étaient là avant nous autres, c'était les Indiens. Mm-hmm. Donc, écoutez, quand j'ai fait mes deux traversées du Sentier des Jésuites, là, à l'hiver 1978, puis l'autre à l'hiver 1980, où là, je suis parti du lac Saint-Jean, puis j'ai fait la traversée en 17 jours jusqu'à Québec, à la rivière Saint-Charles, là, au parc quartier Brébeuf. J'ai pas dormi une seule nuit dehors.
Décrivez-nous votre périple, c'est fascinant.
On suivait l'itinéraire des garde-feu qui remontaient la Métabetchouane. Alors, il y avait 7 camps de garde-feu répartis tout le long de la rivière, mais qui, eux, empruntaient les sentiers autochtones. Alors...
Mais parlez-nous de votre recherche, parce que vous ne connaissiez pas le Sentier des Jésuites, vous avez fait beaucoup de recherches.
Après avoir fait la lecture du manuscrit de Giroux, oui. Qui a été finalement publié par Monseigneur Tremblay à la Société d'historique du Saguenay, la publication numéro 32, moi j'ai décidé de partir en ski puis de refaire l'itinéraire avec une vache virtuelle.
Oh là là.
C'est que tout le long, on se demandait, imaginons qu'on tire une vache avec nous autres, oui. Il faut qu'elle passe. Donc, sur les lacs, par exemple, le lac Métabetchouane, sur 10 km de long, où on a quelques de 3-4 pouces d'épaisseur de neige,
oui.
Une dizaine de centimètres, oui. Pas plus, oui. La vache, elle passe sans problème. Les sentiers de portage, ben là, si la piste était bien damée,
oui.
Elle pouvait franchir les sentiers de portage. Mais il y a certains endroits, il fallait contourner une cascade, une chute. Alors, on se demandait tout le temps, nous, on réussit à passer en ski. Mm-hmm. Avec un traîneau, parfois, qu'on tirait pas tout le long, mais en partie sur notre nourriture pour les 10 jours suivant la traversée, sur les 10 jours qu'on a fait, est-ce que la vache passerait? Fait qu'on a validé comme ça, tout le long du parcours, la possibilité d'y convoyer quelques têtes de bétail.
Et vous avez mis 17 jours, c'est ça?
Oui, puis on dormait dans les anciens camps de garde-feu qui étaient abandonnés depuis seulement qu'une dizaine d'années. Ah, parfois, mon collègue Marc Allard, qui était notre spécialiste pour grimper sa toiture puis rabouter les tuyaux de poêle, pendant que Georges allait chercher du bois mort dans les alentours, puis que moi, je commençais à chauffer le poêle. On a pu réutiliser des sentiers de garde-feu qui avaient été établis tout le long du Sentier des Jésuites, mais sur de nombreux autres parcours secondaires. Là. Parce qu'il n'y avait pas un seul sentier, il y avait un labyrinthe de sentiers autochtones réutilisés et maintenus d'une certaine façon pendant une cinquantaine d'années, de 1928 à 1978.
Et entretenu par qui?
Par les gardes-feu. Qui avait installé aussi des lignes de téléphone pour communiquer avec les tours d'observation pendant l'été. Alors, l'été, il patrouillait puis il restait dans les tours d'observation pour détecter des fumées au loin pour se lancer à l'attaque, combattre les feux de forêt. Mm-hmm. Mais l'hiver, il patrouillait en raquette. Pour entretenir les sentiers, les portages, puis les lignes de téléphone qui leur servaient pendant l'été.
Je suis curieux, quels sont vos souvenirs de cette traversée mémorable, il faut dire?
Ah ben, c'était d'abord un travail d'équipe. Hein? J'aurais jamais pu faire ça seul. Mm-hmm. Oui. C'était de constituer une équipe. D'ailleurs, la deuxième traversée, on était fiers d'avoir une fille avec nous autres. Parce que le début du plein air, au début, c'était tous des gars de bois. Mais après ça, on a commencé à amener d'autres chumettes. Fait que... Puis, elle avait 23 ans, c'était la plus jeune du groupe. Mais on l'appelait Louise la gazelle parce que... elle flottait sur la neige. Moi, en arrière, derrière elle, j'étais obligé de rebattre la piste une deuxième fois parce qu'elle n'était pas assez pesante pour... On était fiers aussi d'avoir deux personnes âgées. Ben, on les appelait de même parce que moi, j'avais 28 ans. Et Denis Lapierre, qui avait 55 ans, puis Georges Girard, qui avait 65 ans, et qui ont fait la traversée complète avec moi puis Georges Boucher pour notre arrivée presque triomphale à la rivière Saint-Charles, où les journalistes nous ont accueillis devant le bateau de la réplique du bateau de Jacques Cartier, là, au parc Cartier-Brébeuf, la Grande Hermine. Là.
Oui, oui. J'imagine que, Louis, lorsque vous marchiez sur le sentier, c'est en fait, vous suiviez dans les traces des Inuits depuis des siècles et des siècles.
Et des millénaires.
C'est une émotion tout à fait particulière.
Oui, parce que dès le départ, lorsqu'on est parti par un froid incroyable là, à l'embouchure de la Métabetchouane, j'avais en tête le récit de la traversée faite 150 ans auparavant par Pascal Horace Dumais. Il décrit sa montée dans une petite vallée en diagonale et je revivais les mêmes émotions 150 ans après lui, dans le sentier. Wow. Oui. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on parlerait de l'ère contemporaine, mm-hmm. du sentier des Jésuites, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est encore faisable aujourd'hui sur certaines conditions en autonomie complète. Parce que la plupart des refuges qu'on a utilisés, là, les anciens camps de garde-feu, ont été soit brûlés, se sont écrasés, il en subsiste presque plus. Mais comme nous déjà, on circulait avec tout le matériel qu'il fallait pour camper, parce qu'on n'était pas certain d'un soir à l'autre si on allait trouver le refuge... Mais on était prêt à dormir dehors.
Mais justement, je crois, en mars 2021, il y a deux aventuriers qui ont tenté de parcourir ce sentier, mais qui ont dû rebrousser chemin à cause de conditions climatiques. Et c'est quand même difficile. Est-ce que c'est encore possible?
Des conditions climatiques effroyables, si je peux me permettre, là, parce que... après avoir fait la rivière Saint-Charles sans problème, ils ont sloché sur tous les lacs. C'est-à-dire que la neige mouillante là, les a empêchés de progresser. Mmh. Puis même s'ils ont continué pour atteindre le haut plateau où ils espéraient retrouver des conditions hivernales, c'était impossible. Ils ont dû rebrousser le chemin. Puis moi, pour avoir fréquenté le territoire pendant les 30 années qui ont suivi, je me disais... La rivière Saint-Charles que moi j'ai pu faire sur toute sa longueur en ski en 1980, il y a bien des sections aujourd'hui qui ne gèlent plus. Le réchauffement climatique fait que je ne pourrais pas refaire. C'est pour ça que je vous dis, sous certaines conditions, si on a un hiver normal, faut pas aller là dans les vacances de Noël, comme plusieurs groupes ont échoué, parce que la neige n'est pas encore vraiment installée, elle s'est pas compactée, les lacs sont pas toujours bien gelés, il y a de nombreux rapides qu'on peut passer l'hiver en ski sans avoir à utiliser le sentier de portage l'été, qui gèle plus.
Oui.
Alors, il faut y aller dans la deuxième moitié de l'hiver, comme quand on convoyait des bestiaux, il y a 300 ans.
Mm-hmm.
Puis, mais aujourd'hui, les lacs puis les rivières sont toujours là. Par contre, certains sentiers de portage sont encore fréquentés par des canots campeurs, donc on peut les retrouver. Mais il y en a d'autres où les portages sont en train de disparaître parce qu'ils ne sont plus utilisés. Ils sont envahis par la végétation, même si les sillons de piétinement là, mm-hmm. préhistoriques
oui.
Subsistent encore après des milliers d'années là, d'utilisation. Ben là, ils sont remplacés parfois par des nouveaux chemins forestiers. Puis on peut faire des sections du Sentier des Jésuites maintenant en camionnette.
Espérons
ou en vélo de montagne.
Jour, ou en vélo, bon, alors espérons qu'un jour, nous pourrons reprendre l'entièreté de ce célèbre, mythique Sentier des Jésuites. Alors Louis, merci encore une fois d'avoir bénéficié, nos auditeurs et auditrices, de vos connaissances encyclopédiques que l'on découvre de plus en plus. Et c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver au micro de Marché.
Ça m'a fait plaisir, moi aussi.
À bientôt. Merci. Merci. Vous êtes à l'écoute de Marcher vers le bien-être en compagnie de Denis Chagnon. Nous avons pour vous la troisième chronique de notre serein pèlerin, Michel O'Neill, qui nous parle aujourd'hui du chemin des sanctuaires, qui a été lancé en 1999 et toujours en opération depuis une vingtaine d'années. Alors Michel, bonjour.
Eh bien bonjour Denis, toujours un plaisir de vous retrouver ainsi que votre auditoire.
Et merci beaucoup de votre disponibilité. Alors, pourquoi nous parler de ce parcours en particulier si le Québec en compte une trentaine?
En fait, il y a plusieurs raisons, parce que le chemin des sanctuaires a été le premier des chemins québécois qui est né dans la mouvance de Compostelle. Il est très typique de ce qu'on peut appeler une première génération de chemins québécois. Son développement est assez représentatif, d'une certaine manière, de la façon dont ces chemins-là se sont développés. C'est un modèle de fonctionnement qui a été repris par d'autres chemins. Et finalement, c'est une manière aussi un peu de rendre hommage aux pionniers qui ont démarré au Québec ce type de marche qui est la marche pèlerine ou marche de longue durée après être allé marcher sur les chemins de Compostelle.
Alors justement, comment est née l'idée de ce parcours?
C'est très précis comment ce parcours est né là. C'est presque même un peu anecdotique. L'idée vient d'une personne qui s'appelle Denis Leblanc, dont on avait déjà parlé, qui est un policier à la retraite, qui a été un des deux précurseurs québécois sur les chemins de Compostelle en 1995. Denis a écrit un ouvrage qui s'appelle « Journal d'un pèlerin moderne, récit d'un précurseur québécois sur les chemins de Compostelle ». Et cet ouvrage-là, qui est publié à compte d'auteur en 1997, pas longtemps après être revenu, a été repris par les presses de l'Université Laval en 2016 et est donc disponible pour les gens intéressés. Dans ce livre-là, où il racontait un peu jour par jour son périple, le 15 juin 95, entre Estella et Los Arcos, où il était rendu, il lui vient une idée. Il se dit, dans le fond, pourquoi pas chez nous?
Ben oui.
C'est bien beau, les chemins en Espagne, etc., mais chez nous, on en a des sanctuaires, puis chez nous, oui, on a de quoi marcher aussi. Donc, quand il revient au Québec en 96, il commence à travailler sur cette idée-là, de faire un parcours au Québec, et il se dit, on pourrait relier nos grands sanctuaires catholiques, qui sont l'Oratoire Saint-Joseph, le Cap de la Madeleine et Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, il imagine un parcours, oui, pour ça. Un parcours en 18 étapes et auquel il greffe deux autres petits sanctuaires de moindre importance, un à Varennes et un à Beauport, près de Québec. Alors, toujours en 96, il part avec cette idée-là. Il avait un peu reconnu en vélo puis en auto que ça pourrait être son parcours. Mm-hmm. Puis il va voir la personne en charge des pèlerinages à l'Oratoire Saint-Joseph, une religieuse du nom de Louise Choquette. Et il lui dit, ben garde, moi, je pense qu'on pourrait organiser quelque chose comme ça.
Donc, l'idée semblait avoir du potentiel et sûrement l'idée a suscité l'enthousiasme un peu partout autour de lui. Alors, depuis 1999, comment s'est développé le projet jusqu'à l'ouverture officielle, justement?
Oui, en fait, de 96 à 99, ces trois années-là de développement avant l'ouverture, le premier élément important, c'est qu'on a décidé de constituer un organisme à but non lucratif. Les chemins au Québec font souvent ça. Et il s'appelait Pèlerinage Québec 2000, PQ 2000, en fait. Okay. Oui. L'idée étant que les autres, ils pensaient que ça pourrait commencer en 2000. Finalement, ça a commencé en 99. Ils ont obtenu leur lettre patente en 97. Et sur le conseil d'administration, il y avait plusieurs des pionniers qui étaient déjà allé sur les chemins de Compostelle dans la deuxième moitié des années 90, dont une dame qui s'est appelée Lise Montpetit, qui s'appelle toujours, en fait, Lise Montpetit, et qui a joué un rôle très important avec Denis Leblanc dans le démarrage de ce chemin-là. En 97, toujours, avec les lettres patentes, notre fameux Denis Leblanc, là, se rend village par village pour essayer de trouver des lieux d'hébergement, pour dire, bon, mais là, quand les gens vont aller, ils vont à cet endroit-là. Lui, dans sa tête, ça serait un peu comme Compostelle, ouvert à l'été long, peut-être capable d'accueillir jusqu'à 20 personnes à la fois. Et c'est dans ces termes-là qu'il a commencé à faire ses démarches. L'année d'après, 98, il avait fait pas mal ses démarches, mais là, c'était pas mal trop. Fait qu'il avait trouvé pour à peu près 10. C'était quand même important. Mm-hmm. Et en 98, dans le fond, ils prétestent, eux, le chemin. Là. Ils sont trois qui vont l'avoir. Ils ne font pas ensemble, mais ils font d'un bout à l'autre. Notre cher Denis Leblanc, Michel Dongois, qui était notre autre précurseur québécois qui était allé sur les chemins de Compostelle, il avait donné un coup de main à Denis à démarrer ça. Et Gérald Lemieux, un grand marcheur de la région de Rimouski. Alors, ces trois-là l'ont expérimenté, ça marchait. Et 99, dans le fond, ils font vraiment l'ouverture officielle avec le lancement et tout et tout. Et en 99, le conseil d'administration nomme Lise Montpetit comme présidente en remplacement de Denis Leblanc qui voguait vers d'autres projets. Et c'est donc comme ça que ça s'est comme mis en place, si on peut dire, entre 96 et 99.
Et ça fonctionne toujours bien.
Ça fonctionne 20 ans et plus que 20 ans plus tard maintenant, et ça fonctionne encore.
Alors, si on veut le marché aujourd'hui, ça fonctionne comment? Comment on s'y prend?
En fait, le modèle dans lequel on est aujourd'hui a comme évolué un peu entre 99 et 2010. Puis c'est la formule originelle de Denis qui rêvait 20 personnes, l'été long, etc. s'est avéré comme impossible à pratiquer, notamment à cause des lieux d'hébergement. On n'était pas capable de trouver des hébergements pour tant de personnes que ça à l'été long. Mm-hmm. On a trouvé des hébergements, mais finalement, la formule s'est transformée en disant, plutôt qu'à l'été long, on va prendre 20 jours par année.
Une période précise.
Très précise. C'est toujours en juin, c'est toujours 20 jours. Et à chacune des 20 journées, partent au début, c'était 6. Depuis quelques années, c'est 4 personnes. Donc, à chaque journée des 20 jours, partent 4 nouvelles personnes.
4 nouvelles personnes, oui.
Qui s'en vont puis qui savent exactement où elles vont coucher à chaque endroit. Et dans le fond, c'est 20 jours parce que les endroits, assez souvent, c'est chez l'habitant ou dans des salles paroissiales ou dans même des églises à l'occasion, etc. Et donc, ces gens-là ne sont pas nécessairement disponibles à l'été long pour accueillir du monde. Alors, ça fait que le compromis qu'on a trouvé, ça va être 20 jours. Et cette façon de faire-là nécessite que les gens s'inscrivent. Alors, généralement, en janvier, le site rouvre et puis en l'espace d'à peu près une journée, toutes les places sont comblées. Ça se garoche, si vous me passez l'expression.
Oui.
Donc, c'est très populaire. Et c'est très peu cher, en fait. On essaie vraiment là, de garder ça à un coût abordable. C'est parmi les chemins les moins chers au Québec, là, en termes là, de... Il y a un coût d'inscription, puis ensuite de ça, on prélève un peu, au moment d'inscription, une quote-part pour chacun des hébergeurs, pour être sûr que, même s'il y a des désistements, ils seront pas mal pris par rapport à ça. Donc, ça revient pour les 18 jours à environ 220 $, ce qui est vraiment
très, très cher.
En plus de ça, il faut payer une petite quote-part supplémentaire chez l'hébergeur et ses repas, mais ça demeure très peu cher. Dans les années qui ont suivi entre 1999 et 2010, on en est venu à l'idée d'un demi-parcours aussi. C'est-à-dire que les gens, le parcours en entier, c'est 18 jours, en fait, entre l'Oratoire Saint-Joseph et Saint-Anne-de-Beaupré.
Oui.
Mais on peut faire 9 jours entre l'Oratoire et le Cap de la Madeleine, ou entre le Cap de la Madeleine et Sainte-Anne-de-Beaupré. Et dans le fond, cette possibilité-là a été ouverte parce qu'ils se sont rendus compte que ça accommodait quand même beaucoup de gens. Et la dernière innovation qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont permis l'utilisation de leur chemin hors des 20 jours par un groupe de la Fondation québécoise du cancer, qui, dans le fond, fait des parcours comme ceux-là et ils ont permis cette possibilité-là. Donc, le chemin est balisé. Il y a vraiment des pancartes très
comme
précises.
Comme Compostelle.
Oui, mais ce n'est pas des flèches, là, c'est non, vraiment des affiches.
Oui.
Et il y a un carnet du pèlerin qui est fourni. Donc, avec ça, on peut y aller avec plaisir.
Alors, on a maintenant une bonne idée du fonctionnement. Parlez-nous du trajet qu'emprunte le chemin.
Oui, en fait, c'est 375 km, comme on avait dit, en 18 étapes, 9 entre Montréal et Trois-Rivières et 9 entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-de-Beaupré, avec les 5 sanctuaires dont on avait parlé. Ça part de l'Oratoire Saint-Joseph et ça traverse tout de suite à Longueuil. Et la première partie se fait toute sur la rive sud, c'est-à-dire jusqu'à Trois-Rivières, où on retraverse. En partie sur le bord du fleuve et en partie à l'intérieur des terres dans la Montérégie, avec le sanctuaire de Varennes de cette portion-là.
Beau paysage, j'imagine.
Très beau paysage. Et on s'organise pour que les gens marchent trop non plus sur des chemins très fréquentés. Alors souvent, c'est pour ça qu'on quitte le bord du fleuve, puis on va dans des rangs, etc. On traverse à Trois-Rivières, puis l'autre côté, les 9 autres journées, c'est entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-de-Beaupré, avec le sanctuaire à Beauport. Là encore, c'est le même principe, un peu sur le bord de l'eau et un peu, finalement, à l'intérieur des terres, dans la région de Portneuf. Si ça intéresse les gens, sur le site du Chemin des Sanctuaires, chemindessanctuaires.org, il y a une séquence Google Earth où on voit vraiment en temps réel ce qui se passe. Là. Donc, on suit tout le parcours et ça peut être intéressant pour les gens d'aller voir.
Donc, si je comprends bien, le trajet est toujours le même depuis 1999 ou 2000, mais j'imagine que l'organisation a évolué un peu depuis ce temps.
Oui, effectivement. Le fameux PQ 2000, qui était l'organisme à but non lucratif, qui a été hébergé pendant un certain temps même à Rando-Québec, c'est-à-dire à la Fédération québécoise de la marche, un peu par anecdote, parce que la fameuse Lise Montpetit dont on parle, son fils était sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise de la marche. Et quand l'organisme a commencé à chercher un local, bien, il a dit « ça marche, là, c'est la marche, on connaît ça, on va vous héberger ». Alors, ils ont hébergé pendant quelques années dans les locaux actuels qui sont toujours à la même place, là, dans le stade olympique, en fait, avec les autres fédérations.
Oui.
On a hébergé PQ 2000. Et PQ 2000, non seulement avait démarré le chemin des sanctuaires, mais ils ont aussi démarré plusieurs autres chemins. En 2005, ils ont démarré le chemin des Outaouais. En 2005, ils ont aussi démarré le chemin de Montréal, qui se faisait le tour de l'île. Mais celui-là a été abandonné faute de volontaires, parce que tout ça repose sur du travail bénévole. C'est vraiment un organisme à but non lucratif de bénévoles. Et le dernier qui a été parti, c'est le chemin des navigateurs en 2008. Et ces chemins-là reprennent le même modèle. Quelques jours par année, 4 ou 6 personnes, des endroits prédéterminés où les gens vont et habitent, et très peu cher. L'organisme PQ 2000 lui-même s'est un peu étiolé avec le temps et finalement ont comme disparu. Et c'est chacun des chemins, Navigateur, Outaouais, Chemin des Sanctuaires.
Ils sont devenus autonomes.
Oui. Ils ont devenu chacun un organisme à but non lucratif.
Ah oui.
Et tout ça a fonctionné à plein, là, pour le Chemin des Sanctuaires notamment, jusqu'à la pandémie où, en 2020, il y a eu une annulation complète. En 2021, on a proposé aux gens de... On leur a donné le tracé, puis on a dit, faites-le vous-même si vous voulez, mais sans donner des lieux d'hébergement. Donc, les gens pouvaient le faire à leur goût. Et en 2022, en théorie, on devrait revenir à la formule habituelle.
Donc, l'avenir s'annonce quand même prometteur pour
les gens. Tout à fait, parce que ça fonctionne très bien en général.
Bon, et alors Michel, merci beaucoup de nous avoir présenté cette première implantation d'un chemin québécois né dans la mouvance de Compostelle, justement. J'imagine que vous nous donnerez un exemple dans une prochaine chronique d'un parcours québécois né dans sa mouvance indirecte.
Tout à fait. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir aussi, et puis on peut conclure là-dessus, que même son nom étant le nom Chemin des Sanctuaires, ça ne veut pas dire que c'est un chemin religieux fait sous forme de pèlerinage. Parce que pour la majorité des gens qui font ces types de chemins de marche de longue durée ou de marche pèlerine, maintenant, les gens ne le font plus pour des motifs religieux.
Du tout?
Il peut y avoir un certain nombre encore, mais disons que ce n'est plus la grande majorité. Ça peut être pour des motifs spirituels, d'exploits physiques ou autres, mais dans le fond, c'est important de réaliser que si on fait le chemin des sanctuaires, on ne le fait pas nécessairement en pèlerinage, là. Et ça nous introduit à ce qui sera, dont on parlera un peu plus en détail lors d'une prochaine chronique, nos chemins de deuxième génération au Québec.
C'est quand même une belle marche méditative, n'est-ce pas?
Ah, tout à fait. Alors, voilà.
Oui, oui. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Michel, et à la prochaine.
Ça me fera plaisir. Thank you.
Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Marché vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h et les vendredis à minuit. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet « Archives » de ce site. Aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet « Radio-VM » où vous trouverez également des références portant sur chaque épisode. Je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui, Louis Lefebvre et Michel O'Neill. Et à la technique, merci à Valérian Fournier pour sa doigté dans le montage de cette émission. Merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Et je vous laisse avec cette pensée de David Le Breton. Le marcheur est celui qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. Bonne route et à la prochaine.